Science Chrono, Antoine Beauchamp.
En 2010 s'ouvrait une nouvelle fenêtre sur notre passé d'Homo sapiens. En découvrant que notre ADN d'humain moderne se composait d'une partie héritée de l'homme de Néandertal, l'équipe de Svante Paabo venait trancher un débat aussi vieux que la préhistoire sur la possibilité ou non d'une hybridation de notre espèce avec d'autres espèces humaines. Science Chrono vous raconte aujourd'hui l'une des plus grandes réussites de cette jeune discipline qu'est la paléogénétique. Et bonjour Evelyne Ayer.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro de Science Chrono. Vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle, Musée de l'Homme. Vous êtes l'autrice de deux best-sellers, L'Odyssée des Gènes et La Vie Secrète des Gènes, tous deux parus aux éditions Flammarion. Nous allons parler ensemble de notre évolution éclairée au prisme de la génétique. Mais avant cela, je vais vous faire un petit rappel, chères auditrices, chers auditeurs. Science Chrono, vous le savez désormais, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique hebdomadaire sur France Culture. À partir d'une archive sonore mettant en lumière une découverte, une théorie ou un événement scientifique, nous ouvrons avec notre invité une page de l'histoire des sciences pour en comprendre non seulement la genèse, mais aussi l'évolution. Nous faisons donc aujourd'hui un retour dans un passé à la fois proche et lointain. Proche parce que la découverte du fait que notre génome est en partie composé d'ADN hérité de l'homme de Néandertal date de 2010. Lointain parce que cette prouesse dans le domaine de la paléogénétique nous ramène à un passé vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, à ce moment où Homo sapiens sorti d'Afrique a rencontré cette autre espèce cousine de sapiens, l'homme de Néandertal, aujourd'hui disparu. Evelyne Ayer, on va discuter de l'importance de cette découverte aussi bien pour la compréhension de l'évolution de notre espèce que pour l'histoire des sciences et en particulier de la paléogénétique. Une découverte que présentait non sans une pointe d'ironie Frédéric Monteil dans le journal télévisé de France 2 avec l'éclairage de l'archéologue Pascal Depape. C'était en mai 2010.
Nous, les Homo sapiens, nous avons tous quelque chose en nous de Néandertal. Bon, d'accord, vous le trouvez trop moche comme arrière-grand-père. Alors, prenez un Français moyen comme moi, un Papou ou un Chinois, nous possédons tous les trois 1 à 4% de gènes issus de l'homme de Néandertal. C'est ce que révèle une étude parue dans la revue américaine Science. En Allemagne, une équipe internationale a décortiqué l'ADN d'ossements vieux de 30 à 40 000 ans. Résultat, les chercheurs ont décrypté le génome de Néandertal. Et avec lui, une histoire nouvelle apparaît. Lorsque l'Homo sapiens quitte l'Afrique, il rencontre au Proche-Orient, dans l'actuel Israël, l'homme de Néandertal. Ils se croisent au sens biblique du terme. Leurs descendants partent ensuite conquérir le reste du monde. Population à l'époque, moins de 20 000 hommes.
On a maintenant la preuve que l'homme de Néandertal n'était pas cousin de l'Homo sapiens, c'est-à-dire de nous-mêmes, n'est pas non plus complètement un frère, mais est en tout cas un hominidé avec qui nous pouvons nous croiser et avoir des descendants.
On est donc loin du Néandertal d'Épinal ou d'Hollywood. Longtemps, une image de brute épaisse et cervelée lui a collé à la peau, rendant improbable son alliance avec nos ancêtres Homo sapiens. Aujourd'hui, grâce à l'ADN, il fait un peu plus partie de la famille. Reste un dernier mystère à élucider, celui de sa disparition brutale il y a 30 000 ans.
Voilà, cette archive, elle est pratique, Evelyne Ayer, parce qu'elle plante un peu le décor de notre discussion et le fil conducteur qu'on va suivre tout au long de Science Chrono du jour. On va rendre à César ce qui est à César, l'équipe de recherche internationale qui est citée, mais non mentionnée. On ne mentionne pas le nom du chercheur principal de cette équipe, c'est Svante Paabo, qui a obtenu en 2022 le prix Nobel de physiologie et de médecine, rien que ça. Et Svante Paabo et ses coéquipiers n'en étaient pas en 2010 à leur coup d'essai. Qu'est-ce qu'ils avaient pu réaliser en 2008 déjà, qui avait mis sur la trace de cet ADN de Néandertal?
Alors, ils avaient trouvé, en 2008, ils étaient arrivés à séquencer ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Dans une cellule humaine, vous avez de l'ADN dans le noyau et vous avez de l'ADN dans des petits trucs qui servent à faire de l'énergie qu'on appelle les mitochondries. Et l'ADN mitochondrial, donc c'est très peu hein, par rapport à l'ADN du noyau, mais il est transmis uniquement par les femmes, c'est-à-dire c'est les mères qui le transmettent à leurs descendants. C'est une toute petite molécule, mais elle est super hyper intéressante parce que avant ces travaux, même autour de l'homme de Néandertal, elle avait été déjà utilisée dans les populations humaines pour montrer les mouvements migratoires à partir des femmes, et ça avait déjà pu montrer que dans notre espèce, les femmes bougent beaucoup plus que les hommes. Et donc, ce petit bout d'ADN qui était déjà très employé, l'ADN mitochondrial, ils ont commencé, bien sûr, déjà à séquencer ça. Pourquoi ? Parce que normalement, il y en a plus, c'est plus petit et c'est informatif. Et donc, cet ADN mitochondrial de Néandertal était différent de celui des sapiens. C'est-à-dire qu'on ne le retrouvait pas dans aucune population humaine actuelle. Donc, l'idée, c'était que s'il y avait eu mélange, il était trop rare pour qu'on retrouve cet ADN mitochondrial chez nous. Et donc, la conclusion allait plutôt dans le sens qu'il n'y aurait pas eu de mélange entre notre espèce, Homo sapiens, et l'homme de Néandertal.
C'est ça qui est très beau avec la recherche scientifique, c'est que parfois, à 2 ans d'écart, on va avoir un avis différent sur une étude et sur un fait. Donc, Svante Paabo ne pensait pas à l'époque, en 2008, qu'il y a eu des hybridations entre Homo sapiens et Néandertal, mais à partir de 2010 et l'étude de l'ADN nucléaire d'un ossement de Néandertal et d'ossements de sapiens, on a pu se rendre compte qu'il y avait eu des hybridations, des mélanges, des croisements entre Homo sapiens et Néandertal. Par quelle prouesse technique on a pu obtenir ce résultat ?
Alors c'est très dur d'arriver à extraire de l'ADN de fossiles anciens parce que l'ADN au cours du temps finalement il se dégrade. Donc il devient tout petit et tout abîmé. Et donc quand vous étudiez ça, il suffit qu'il y ait une petite molécule d'ADN moderne qui traîne autour, elle va contaminer toute votre expérience. Donc ça nécessitait de travailler hors contamination. Et d'arriver à extraire ces tout petits bouts d'ADN et d'arriver à les lire. Alors, ils ont utilisé des nouvelles techniques de séquençage qui ont commencé à être développées à cette époque. Et puis après, dans les études qui ont suivi, il y a eu encore des nouvelles techniques de séquençage. Ce qui fait que maintenant, finalement, ce qu'il y a de remarquable dans ce qu'a fait l'équipe de Svante Paabo, c'est bien sûr ce résultat scientifique fort, mais c'est aussi d'avoir ouvert tout un champ de discipline, quoi. Parce qu'après, la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN, non pas des humains actuels, mais ceux qui sont sous forme de squelettes qu'on retrouve dans la Terre, a connu vraiment une expansion extraordinaire et nous a révélé d'autres pans de notre histoire absolument magique.
C'est vrai que l'histoire des sciences récentes est assez forte de ce point de vue-là, du point de vue de la génétique, puisqu'en 2000, on séquençait pour la première fois de façon complète le génome humain. 10 ans plus tard, on arrive à séquencer le génome d'humain fossile, et ça c'est très très compliqué, vous le rappeliez à l'instant. On va rentrer dans le détail de notre héritage de Néandertal, de ce qu'on a en nous, dans notre organisme de Néandertal. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse un peu d'histoire et de géographie de cette rencontre entre sapiens et Néandertal. Est-ce qu'à partir de ce type de travaux de Svante Paabo, on peut estimer le lieu et la période globalement de rencontre entre sapiens et Néandertal et de croisement sexuel ?
Oui. Parce que, en fait, quand on regarde l'ADN d'humains qui vivent sur la planète, grosso modo, sauf les gens qui ont tous leurs ancêtres en Afrique, on retrouve environ 2% de l'ADN qui vient de Néandertal. Et donc, ça veut dire que le croisement a eu lieu au moment où notre espèce est sortie d'Afrique. Grosso modo, notre espèce, elle émerge il y a 200-300 000 ans en Afrique, et il y a environ 60 000, 70 000 ans, il y a des groupes humains qui vont partir à l'extérieur de l'Afrique pour petit à petit se répandre sur l'ensemble de la planète. Le fait que, comme c'est dit dans le reportage, aussi bien un Papou qu'un Amérindien, qu'un Sibérien, qu'un Européen ou qu'un Laotien portent en eux du Néandertal nous indique que ce mélange a eu lieu au moment de la sortie d'Afrique, au moment où notre espèce a rencontré Néandertal qui était en Europe et en Asie depuis plusieurs centaines de milliers d'années.
Oui, parce que Néandertal, c'est une espèce issue d'une autre espèce d'hominidée qui est sortie d'Afrique il y a un peu plus de 600 000 ans. Sapiens apparaît vers 300 000 ans en Afrique. Vous le rappeliez à l'instant, sort d'Afrique vers 70 000 ans et à ce moment-là croise Néandertal. On va rentrer dans le détail de cette composition génétique qui nous concerne et dont on hérite de Néandertal. On va rappeler aussi que Sapiens et Néandertal ne sont pas des espèces radicalement différentes d'un point de vue génétique. Alors aujourd'hui, par exemple, si on prend deux êtres humains au hasard, ils sont identiques génétiquement à 99,9%, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que sur les 3 milliards de paires de bases qui composent notre ADN, si on en pioche 10 000 au hasard, il y a 10 différences entre vous et moi en moyenne. Si on compare un sapiens à Néandertal, il y a 13 différences sur 10 000, donc c'est pas grand-chose. Et là encore, ça rappelle la prouesse qui a dû être réalisée pour aller cibler les bonnes différences. Finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a, nous, hérité de ces infimes différences et quelle partie de notre génome ça concerne, cet héritage de Néandertal?
Alors, on voit le gros de l'héritage de Néandertal, ça fait strictement rien.
C'est presque décevant.
Non, mais il faut bien se rappeler que dans l'ADN, les parties qui changent vraiment quelque chose à un être humain sont assez réduites, que la majorité de notre ADN ne change pas grand-chose. Et donc, on a reçu beaucoup de pas grand-chose qui ne changent pas grand-chose, mais de temps en temps, on a quand même reçu des trucs assez intéressants, parce qu'en fait, l'homme de Néandertal, il était déjà adapté au continent, à l'Europe et à l'Asie. Donc, il y a certains de ces gènes qui lui ont permis une meilleure survie, qu'on a récupéré par croisement. Donc, par exemple, des petits bouts de génome impliqués dans l'adaptation à certains pathogènes, dans de la cicatrisation de la peau, certains qui seraient liés à des problèmes métaboliques ou pas. Mais de temps en temps, on a reçu des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, c'est-à-dire qui l'étaient peut-être dans le passé et qui le sont moins maintenant, comme par exemple des variants génétiques qui donnaient une probabilité plus élevée de faire un Covid grave, qui viennent de Néandertal. Alors, dans le passé, à un moment donné, ça a été avantageux, mais il se trouve que dans le contexte actuel, ça ne l'était pas. Mais ce qu'il y a de remarquable là-dedans, c'est qu'il y a aussi des bouts du génome de Néandertal que personne n'a reçu. C'est-à-dire, il y a 60% du génome de Néandertal qui n'était pas compatible avec le génome de Sapiens. Autrement dit, quand il y avait des croisements, si un enfant issu d'un croisement portait ces bouts de génome-là issus de Néandertal, bah, visiblement, ça ne fonctionnait pas.
Ça, c'est très intéressant, il faut le rappeler, parce que c'est un peu technique, mais dire que, voilà, vous et moi, on n'a pas forcément le même héritage concernant les mêmes parties de notre génome de Néandertal. Il y a, si on met bout à bout toutes ces séquences qui sont un petit peu disséminées chez Sapiens, on connaît 40% du génome de Néandertal et 60% a été finalement...
Jamais transmis.
Qu'est-ce
non, mais
que
un
ça...
truc de dingue.
Et ça, c'est un truc de dingue. Alors, pourquoi c'est un truc
ah,
de dingue?
Ah, bah justement, parce que on aimerait bien savoir, ces 60% qui n'ont jamais été transmis, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, il y a des bouts qui sont liés à des gènes qui correspondent à des fonctions, donc peut-être ça marchait pas très bien. Mais aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que Néandertal, il était déjà en décroissance démographique et donc il avait pas beaucoup de diversité génétique. Et on voit même dans son génome qu'il avait accumulé des variations génétiques qui sont pas top. On dit délétères. Mmh. En fait, des variations qu'il vaut mieux pas trop en avoir, c'est pas terrible. Et donc on pense que ces bouts de génome qui avaient des mutations délétères font partie de ces 60% qui n'ont pas été transmis. Mais il y a une autre histoire encore plus belle autour de ce qui a été transmis ou pas transmis. On a reçu très peu de bouts d'ADN de Néandertal du chromosome X. Or, le chromosome X, quand vous l'avez en deux variants, ça fait des femmes au sens biologique du terme, alors que les hommes sont XY. Et donc, le fait qu'on ait reçu peu de X de Néandertal, ça irait dans le sens que ce seraient des femmes sapiens qui se seraient croisées avec des hommes néandertaliens, hypothèse culturelle ou hypothèse biologique. Quand vous recevez un bout d'ADN sur le chromosome X, ça s'intègre encore moins bien dans votre génome.
Ça, c'est passionnant et on y reviendra bien sûr à cette dimension culturelle qu'à cette découverte purement biologique. Et c'est le fruit et c'est l'objet de votre travail au quotidien, Evelyne Ayer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on persiste dans cette époque de croisement, de mélange entre Sapiens, Néandertal. Est-ce que c'est possible qu'au début, il y ait eu plus de génome de Néandertal dans Sapiens et que ces parties, elles avaient vite été mises de côté?
Oui, ça a été trouvé dans des travaux remarquables de mon collègue Jean-Jacques Hublin, qui a travaillé sur le site de Bachokiro. Et il a trouvé un des premiers sapiens européens. Et ce sapiens européen, donc comme nous tous qui sommes à l'extérieur de l'Afrique, il a ses 2% de Néandertal, mais il en avait aussi d'autres qu'il avait reçus parce qu'il avait un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était Néandertal. Et à 4 ou 5 générations. Et même à 4 ou 5 générations, à nouveau, on n'a pas ces fameux 60% d'ADN qui viennent de Néandertal. Ça nous renseigne sur le fait que ça doit être une sélection forte et rapide.
Très rapide, oui.
Oui.
Parce qu'à l'échelle de l'évolution humaine, quelques générations, c'est rien du tout. Donc ça signifie quand même que le tri a vite été fait.
Oui, tout à fait. On a eu un tri très rapide.
Et alors, une autre question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a retrouvé des Néandertaliens dont l'ADN était composé d'ADN sapiens? Est-ce que l'inverse s'est produit ou est-ce que c'est une question qui est encore irrésolue?
Eh bien, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. C'est le gros point d'interrogation. Alors, d'abord, on n'a pas beaucoup de Néandertaliens. Donc il faudrait avoir des Néandertaliens dont on puisse être sûr qu'ils ont côtoyé des sapiens. Donc là, on a un problème d'échantillonnage. Et la question est bien sûr fondamentale parce que vous avez un hybride. On se replace. Vous avez donc maman sapiens, monsieur Néandertal, et vous avez le petit gamin qui arrive un peu entre les deux. Et qu'est-ce qui devient? Alors, si vous êtes, on peut imaginer une culture plutôt ouverte, ça vous pose pas de problème. Et le bébé enfant différent, il rentre dans votre groupe et lui, après, il va se recroiser avec d'autres sapiens, etc. Et si vous êtes peut-être un groupe plus fermé, qui aime moins ce qu'il y a de différent, il rentre pas chez vous. Donc, on ne sait pas si les mélanges qui ont eu que dans un sens, c'est tout simplement parce que peut-être Sapiens était plus tolérant à la différence que Néandertal, ou alors est-ce que c'est à l'heure actuelle un biais d'échantillonnage? J'ai hâte de voir ce qui va sortir dans les années à venir.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
On poursuit cet épisode de Science Chrono dédié à l'hybridation découverte en 2010 par Svante Paabo entre Néandertal et Sapiens. Svante Paabo, en 2010, quasiment de façon concomitante, Evelyne Heyer a découvert une autre espèce humaine, une nouvelle espèce humaine à partir d'un bout de phalange dans une grotte en Sibérie, l'homme de Denisova. Et déjà, quelques années après, il a pu mettre en évidence avec son équipe une autre hybridation entre Denisova et Sapiens, là aussi avec des répartitions géographiques un peu particulières.
Oui, alors l'homme de Denisova, c'est la première fois qu'on trouve finalement une nouvelle lignée humaine juste avec son ADN. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Donc, grosso modo, c'est le cousin de l'Est de Néandertal. Et on retrouve dans les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'Océanie ou du sud de l'Asie et au Tibet, les individus, les humains, ont reçu des bouts de génome de Denisova. Et c'est très surprenant pour une première raison, c'est que le seul Denisova prouvé par l'ADN qu'on a trouvé, c'est en Sibérie, donc c'est plutôt au nord. Bon, depuis, avec une autre technique, on en a trouvé au Tibet, alors que c'est plutôt des populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui en ont pas mal. Donc, on pense du coup que peut-être que Denisova avait une aire géographique assez grande et qui s'est réduite après. Et Denisova, c'est un des plus bels exemples d'adaptation par croisement, ce qu'on appelle les introgressions adaptatives de l'histoire humaine, parce que les populations du Tibet sont adaptées à l'altitude grâce à un variant d'un gène qui s'appelle EPAS, et le variant qui leur permet de s'adapter, ils l'ont reçu de Denisova.
Un variant qui leur permet d'évoluer dans un environnement qu'on qualifie d'hypoxique, donc de faible teneur en oxygène. Ça, c'est pour montrer que voilà, Svante Paabo, figure de pionnier majeur en matière de paléogénétique, et cette discipline-là, elle permet d'aller dans des détails, à des degrés de détails quand même assez incroyables. Evelyne Heyer, on a pu, avec cette discipline et cette approche-là, développée par ses équipes, et voilà, que vous suivez également, on a pu démontrer chez Néandertal et chez Sapiens le partage d'un gène, par exemple, qui serait fondamental pour le développement d'un langage articulé, ce qui là nous renseigne à nouveau sur une forme de pratique culturelle. Ça, c'est grâce à la paléogénétique qu'on peut établir ce genre de choses?
Oui, mais alors, je veux revenir quand même sur l'histoire de ce gène qui s'appelle FOXP3 ou FOXP2, je me souviens jamais FOXP2. De son petit numéro. Oui. Il a été trouvé dans des familles actuelles, de sapiens actuels, qui avaient un problème d'articulation et un problème lié au langage. Donc ce n'est surtout pas le gène du langage. Hein. Si je prends une voiture et que j'enlève une bougie, la voiture, elle fonctionne pas. Ça veut pas dire que la bougie, c'est la voiture. Okay. Mais c'est un des variants génétiques qui semble important pour avoir une élocution fonctionnelle. Et c'était assez intéressant de voir que effectivement Néandertal a ce même variant. Et il y a d'autres travaux qui ont montré qu'a priori, il avait toutes les capacités phonatoires pour parler. Il y a même des études après qui ont montré qu'il avait aussi les oreilles pour entendre des consonnes. Donc, a priori, c'est raisonnable de penser, en plus, vu la richesse de sa culture symbolique, que Néandertal était doué de langage.
Ça fait partie des choses aussi dans le domaine de la préhistoire qui sont très intéressantes et qui ont été confirmées par cette découverte en 2010. C'est que, finalement, Néandertal a longtemps été considéré comme un sous-sapiens, a été méprisé, finalement. Comment a été reçue cette découverte en 2010 par le domaine des préhistoires ?
Depuis qu'on sait que les Européens ont pas mal de Néandertal en eux, il a été bien réhabilité.
Oui, ça c'est clair. Il est devenu notre égal. On l'admire, il est artiste. Tout d'un coup, il est doué de sensibilité.
Ouais, c'est très marrant. C'est en termes d'histoire des sciences, le changement de représentation lié au fait qu'on a pu montrer qu'on s'était croisé avec lui. Parce que moi, j'ai des collègues paléanthropologues. Par exemple, Marie-Hélène Patoumati, ça fait bien longtemps qu'elle trouve que Néandertal savait faire beaucoup de choses. Mais elle a vu un engouement pour ce type de travaux suite à la découverte du croisement et du fait qu'on porte un peu d'ADN de Néandertal.
Donc ça permet de confirmer la réhabilitation de Néandertal, mais ce que nous dit aussi, cette découverte nous donne beaucoup d'informations aussi sur l'évolution de notre espèce à nous, Evelyne Heyer. Comment est-ce que ces travaux-là, finalement, permettent de préciser notre histoire d'Homo sapiens?
Alors là où c'est intéressant, c'est quand on compare le génome de Néandertal et celui de notre espèce, c'est de regarder les endroits du génome dans des parties des gènes, donc qui codent pour quelque chose, qui sont systématiquement différents entre les deux espèces. Et sur les 23 000 gènes que contiennent notre ADN, il y en a 60. Donc on a tous ces gènes-là, mais la forme Néandertal est clairement différente de la forme sapiens. Et donc il y a des travaux qui sont faits à l'heure actuelle pour essayer de voir en quoi la forme Néandertal fait des choses différentes de la forme sapiens.
C'est là qu'on se rend compte que la différence entre deux espèces tient à rien du tout. On a un patrimoine génétique du côté de Néandertal qui, vous le rappeliez aussi, Evelyne Heyer, semble être de moindre qualité. Ça nous renseigne sur l'état de cette espèce au moment de l'arrivée de Néandertal. On l'entendait dans l'archive tout à l'heure, 20 000 représentants de l'espèce de Néandertal, c'est rien du tout. Alors est-ce que cette espèce était déjà en déclin au moment où Sapiens est arrivé? Et est-ce que cette découverte peut d'une certaine façon nous renseigner sur ce mystère qu'est la disparition de Néandertal?
Je trouve que ça nous renseigne très bien. Parce qu'à partir de l'ADN d'individus d'une population, on peut retracer l'histoire démographique d'une population. Et donc quand on applique ces méthodes-là à Néandertal, on voit bien qu'il était en décroissance avant que Sapiens arrive en Europe. Peut-être que Sapiens a accéléré le phénomène de disparition. Mais toutes les espèces, de toute façon, sont vouées soit à se transformer, soit à disparaître. Et il semble que Néandertal, d'après les données génétiques, était vraiment en décroissance démographique, avait accumulé pas mal de mutations, donc que l'on dit délétères. Donc il n'était pas en grande forme, on va dire, d'un point de vue génétique. Mmh. Attention.
Et comment est-ce que la génétique, dans ce cas précis, donc la biologie a priori pure, peut se rapprocher de la culture? Et comment ces deux mondes qui sont souvent séparés de façon un petit peu idéologique et par crainte finalement d'essentialiser les gens, les groupes humains, comment est-ce que ces deux-là peuvent se rencontrer grâce à la paléogénétique et nous offrir des informations totalement nouvelles?
Alors, je pense que ce qu'apporte beaucoup la génétique par rapport à ces questions-là, c'est de montrer l'extraordinaire diversité des populations humaines et de montrer que, en fait, l'essentiel de la diversité se retrouve à l'intérieur des populations humaines et qu'il y a peu de différences entre les populations humaines et que une partie de ces différences sont dues à des adaptations à des environnements différents, par exemple à la couleur de peau, mais aussi à des phénomènes culturels. Toujours la couleur de peau. La couleur de peau, c'est une adaptation à quelque chose de culturel, à savoir l'alimentation, en même temps qu'à quelque chose de lié à l'environnement, à savoir le soleil.
Alors vous, votre métier, c'est justement de rapprocher, par votre métier, votre approche, Evelyne Heyer, d'anthropologie génétique, c'est de fusionner biologie et culture. Quelle réception vous avez quand vous parlez à des béotiens de cette discipline et de cette approche? Est-ce que on vous dit pas, mais vous risquez pas de justifier des doctrines ou des théories racistes?
Ben non, parce que justement, c'est le paradigme inverse. Dans la théorie raciste, on pense que c'est la biologie qui détermine la culture. En fonction de votre couleur de peau, vous avez tel comportement, telle culture. Et tous nos travaux au laboratoire montrent que, en fait, dans certains cas, la culture a un impact fort sur la biologie. Donc c'est, un renversement du paradigme, donc de la manière de penser ce lien entre biologie et culture. On montre, par exemple, que dans l'espèce humaine, on a une extraordinaire diversité de manières de faire famille et que donc avec qui on se reproduit, si on bouge suite au mariage, tout ça, c'est des traits fondamentalement culturels, ont un impact fort sur la diversité des populations, sur leur évolution.
C'est là que la biologie permet donc de supprimer toute forme de hiérarchisation de façon très salutaire et ça nous rappelle aussi ce genre d'histoire et ce genre de découverte comme celle réalisée en 2010 par Svante Paabo que nos ancêtres étaient tous des migrants, ce qui n'est pas totalement inutile en cette période qu'on vit collectivement. Evelyne Heyer, pour conclure cette émission, est-ce que vous pourriez nous donner quelques lumières sur la suite de la paléogénétique et sur les mystères sur lesquels planche cette discipline qui est, je le rappelle, assez jeune?
Alors, il y a un mystère, il y a quelque chose dont j'attends les résultats avec impatience, c'est le moment où on sera capable de faire parler de l'ADN que l'on retrouve dans le sol en Afrique. Parce que pour l'instant, on a très très peu de données sur toute l'Afrique. Et donc ça me fascine. Et l'autre chose qui me fascine, c'est que avec les données génétiques, on peut retracer la manière dont les gens dans le passé faisaient famille. Et donc comment ils vivaient dans le passé. C'est-à-dire qu'on va au-delà de juste l'apparence des gens ou des squelettes, ils étaient grands, petits. On peut mieux comprendre le lien entre les individus dans le passé. Comment ils faisaient famille dans le passé.
Et ça, c'est vrai que c'est important que vous le rappeliez, l'ADN ancien se conserve très mal dans les zones tropicales du fait de la température et de l'humidité. Est-ce que c'est un obstacle infranchissable ?
J'espère que non. J'espère qu'il y aura à nouveau des gens super doués en labo pour arriver à nous faire parler de l'ADN même de zones tropicales. Mon souhait, oui, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de lumière dans le passé, parce qu'on a une diversité actuelle de faire famille, mais il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé et qui existaient dans le passé. Voilà, ça m'intéresse de voir ce que les découvertes vont donner là-dessus.
Merci beaucoup, en tout cas, Evelyne Heyer, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ces pérégrinations familiales et humaines. Je rappelle le titre de vos deux livres, L'Odyssée des gènes et La vie secrète des gènes, qui sont à lire aux éditions Flammarion. DNA par The Kills. Pour conclure génétiquement cette émission Science Chrono, c'est déjà fini. Un grand merci à Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard. Merci également à Arnaud Planson de l'INA pour son aide dans la recherche d'archives. À la technique aujourd'hui, c'était Ruben Carmazine. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.
When it came to pass, glory passed.